On remet le débat avec Bernard juste après l'intervention de Pierre de Lyon et on aura également un débat sur son intervention.
Je remercie beaucoup Catherine Dolto, Alain Vanier, mais aussi Caroline Eliachef et Sylviane Giampino de m'avoir invité. Aujourd'hui, je mesure à quel point Françoise Dolto est en moi depuis très longtemps. Et comme tu l'as rappelé, je ne l'ai pas rencontrée personnellement, sauf dans les grands congrès lacaniens de l'époque, mais je dois dire que je me rends compte à quel point sa présence, au fond, dans mon monde interne, a une insistance et une importance qui est grande. J'étais il y a 10 jours à Cuba. Je me rends compte là aujourd'hui que, en fait, j'ai parlé de Françoise Dolto à Cuba. J'avais pas anticipé sur le titre de la castration chez Castro. Ça aurait pu faire un beau titre. Mais enfin. Le week-end dernier, j'étais à Thessalonique. J'ai aussi parlé de Dolto à la faculté de médecine. Et d'ailleurs, vous avez vu les résultats que ça a donné assez rapidement. C'est que les enfants sont dans la rue pour... Mais plus habituellement, je suis à Lille. Et donc là, je parle aussi beaucoup de Dolto, notamment à la faculté de médecine où je suis prof. Donc en première année, ils sont 3000, c'est-à-dire plus que vous. Et je leur parle de la castration, pour les préparer à l'examen de fin de première année, bien entendu, mais aussi pour leur dire que dans le développement de l'enfant, c'est vraiment un concept tout à fait formidable duquel il va falloir tenir compte dans toute sa vie durant. Donc, vous voyez, Dolto forever. Donc, ça me semble très important que, au fond, aujourd'hui, à un moment où quand même il y a un certain nombre de gens qui ont dit des tas de méchancetés sur elle, on puisse se retrouver, les fils et les filles de Françoise Dolto, pour dire... quand même, le message qu'elle nous a transmis, la pratique qu'elle nous a transmise, les théorisations qu'elle nous a permises, c'est tout à fait fondamental de pouvoir continuer à les répandre autour de nous. Je pense qu'elle a eu un très grand rôle dans la modification du paysage contemporain en matière d'enfance, et comme vient de le rappeler Bernard Goltz, notamment en matière de psychiatrie du tout petit enfant, et notamment du bébé. Et là, je vous parle évidemment en tant que co-président de la OEM avec Sylvain Missonnier, prenant la succession de Bernard Goltz, et on voit bien que, avec les nuances qu'il a apportées, il n'empêche que Françoise Dolto a mis le projecteur sur la toute petite enfance et notamment tout ce qui se passe autour de la naissance d'une façon absolument incontournable. Et je crois que c'est très important de lui rendre cet hommage appuyé. Alors, sur les mauvais points qu'on lui reproche, il me semble que il y a des choses dont je voudrais dire un mot parce que je suis toujours un peu sidéré qu'on dise, par exemple, Françoise Dolto, oui, c'est vrai, elle avait une bonne intuition, c'était une bonne clinicienne, mais c'était quand même pas vraiment une théoricienne. Alors ça, vraiment, je dois dire que ça me fait tomber de mon armoire normande à chaque fois, parce que il me semble que si on revoit l'étymologie que j'ai eu l'occasion de revisiter en Grèce récemment de théorie, le théoricien, c'est celui qui est au-dessus de la mêlée, comme général, dans une armée, et qui regarde ses forces en présence, qu'on va appeler d'ailleurs des théories, hein, les différentes phalanges de son armée, et qui est en train de voir ce qui se passe avec ces fameuses théories pour pouvoir envisager une stratégie qui lui amène la victoire. Alors si être théoricien, c'est ça, on peut, quand on lit par exemple les séminaires de psychanalyse d'enfants qu'elle a écrits, hein, et qui ont été publiés au Seuil par exemple, voir à quel point c'était une théoricienne de génie. C'est-à-dire qu'elle était capable de voir dans la clinique de tous les jours des choses qu'elle savait abstraire, qu'elle savait extraire pour les communiquer dans le cadre de son enseignement aux autres qui étaient là en train d'assister ébobie à ses intuitions géniales de soi-disant pas théoricienne. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir sur cette idée reçue qui se répand comme ça d'une façon un peu invraisemblable. Et je pense que vraiment pour moi, la théorie, hein, comme praticien de la psychothérapie institutionnelle, la théorie c'est vraiment ça, rendre lisible la clinique. Et je crois que la psychanalyse, c'est quand même une de ses missions principales de pouvoir le rendre vivant, de pouvoir continuer à utiliser cette chose-là dans cette clinique d'aujourd'hui qui est justement bien menacée d'être réduite uniquement au comportement observable et qui permettrait de faire abstraction de la psychopathologie. Alors je crois que c'est très important de redonner à Françoise Dolto ce rôle qu'elle a incarné d'une façon si féconde. Il y a un autre point qu'elle aurait contribué à répandre d'une façon malsaine, c'est que si les enfants sont si mal élevés aujourd'hui avec des tas de troubles du comportement qui ont entraîné, vous savez bien, notre mouvement pas de zéro de conduite, c'est à cause de Dolto. Bon. Alors ça, c'est un autre truc qui me fait tomber de mon armoire bretonne. C'est-à-dire quand même comme si le fait qu'elle ait mis l'accent sur « il faut porter son attention au bébé, au petit enfant », ça voulait dire implicitement qu'il faut donc lui laisser faire tout ce qu'il veut, et que si Freud a décrit les deux principes de fonctionnement psychique, le principe de plaisir des plaisirs, puis le principe de réalité, le fait qu'elle insiste sur le fait on va s'occuper du bébé et de ses messages, de ses signes, comme a dit Bernard antérieurement, eh bien ça veut dire que le principe de réalité c'est secondaire, bien sûr que ça l'est logiquement et chronologiquement, mais ça serait secondaire sur le plan de l'importance. Et que ça expliquerait donc que Françoise Dolto a dit aux parents « laissez-le faire tout ce qu'il veut pour qu'il soit heureux ». Mais c'est vraiment des gens qui n'ont pas lu une seule ligne de Françoise Dolto pour pouvoir dire des choses comme ça. Alors je crois que c'est très important, là encore, de revenir sur cette idée et d'essayer de comprendre en quoi le concept de castration symboligène est si fondamental dans la psychopathologie d'aujourd'hui. Alors c'est un peu là-dessus que je voulais intervenir rapidement. Je pense que le mot de castration symboligène, évidemment, c'est quelque chose qui fait peur au moins à une moitié de l'humanité. C'est un terme assez sensible et qui a été extrait de la psychopathologie par Freud, vous le savez, quand dans le petit Hans, il est en train d'accompagner le père du petit Hans et d'essayer de comprendre comment ce petit Hans fabrique une phobie. Et il va se rendre compte que c'est le résultat de ce qu'il va finir par appeler l'angoisse de castration. Alors, l'angoisse de castration, on sait bien que c'est un élément très important qui prépare ce petit homme à franchir cette fameuse étape édipienne, après quoi il sera délivré de cette angoisse de castration et pourra engager toute cette aventure dans la communauté des hommes post-édipiens. Et en faisant ça, Freud insiste surtout sur l'aspect finalement de l'angoisse de la castration. Évidemment, le côté obscur de la castration était un peu mis en avant par Freud pour des raisons qui tiennent à l'histoire, sans doute à l'histoire de Freud, mais aussi à l'histoire du contexte dans lequel ça se passe. Et je crois que c'est très important de remettre ça dans son contexte historique. Mais quand Françoise Dolto s'empare de ce concept de la castration, elle va en faire un objet sensiblement différent. Bien sûr, elle va reprendre la théorisation freudienne, et c'est très important, et pour cause. Alors je crois que c'est important, quand on relit cet ouvrage fondamental de la psychopathologie aujourd'hui, qu'est l'image inconsciente du corps, de revisiter ces concepts très intéressants qu'elle a proposés, qui tournent autour de ces fameuses castrations symboligènes. Alors fabriquer un symbole, là on voit bien, ça reprend ce que tu disais Bernard, fabriquer un symbole symboligène, c'est vraiment quelque chose qui va être dans le sens qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que l'enfant progressivement va intérioriser les matériaux du tout et langage qui l'environne pour y articuler ses expériences qu'il va dérouler progressivement dans l'interaction avec son parent ou ses parents. Et on voit bien que l'histoire de la castration ombilicale, pour parler de la première, qui est quand même une découverte ça, freudienne, je veux dire doltoïque, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ça permet d'envisager toute la question de la dépendance d'une façon tout à fait nouvelle. Quand la maman arrive en consultation avec son bébé dans les bras, son bébé dont vous vous rendez compte assez vite qu'il n'a pas 6 mois ou 3 mois, mais qu'il a 3 ans, et qu'elle essaie de le poser sur le siège du bureau de consultation, qu'elle n'y arrive pas, et qu'elle se tourne désespérée vers vous en vous faisant des grands signes, elle ne peut même pas vous en dire quelque chose avec des mots, et qu'elle finit par vous dire, quand vous insistez un peu, il me vampirise totalement. Eh bien, quand elle vous dit ça, vous mesurez à quel point cette intuition de Françoise Dolto sur le vampirisme qui résulte de ce fonctionnement prénatal en circulation, disons, fœto-maternelle, eh bien, à quel point c'est en se dégageant de cette chose-là, par la castration ombilicale, qu'il va arriver dans un nouveau monde, celui de l'oxygène qu'on partage, mais aussi celui de l'interaction qu'on partage, et qui va permettre à cet enfant de s'engager dans une période orale tout à fait importante pour se dégager de cette impossibilité de séparation que la circulation sanguine oblige à conserver. Et on voit bien que toutes les pathologies de la dépendance sont en rapport avec cette question-là, et c'était très intéressant de le théoriser de cette manière-là. Pareil pour la castration orale, l'histoire du sevrage, si on le pense uniquement comme « maintenant c'est fini de téter la voie lactée », vous voyez un peu la mégalomanie infantile, eh bien à ce moment-là, cet enfant va plutôt s'en déprimer. Ça tombe bien, c'est le moment de la période dépressive. Mais enfin, en plus, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une fois qu'il a intériorisé le fait qu'on arrête de téter maman, eh bien c'est parce que par ailleurs j'ai des capacités de prendre ma cuillère et de prendre mon assiette et de commencer à manger moi-même, c'est-à-dire de participer plus activement à la séparation d'avec maman. Et ce qu'on a oublié, c'est qu'en même temps qu'on fait ça, la maman dit à son petit, tu sais, il faut quand même que tu te prépares à ce que le toucher qui était notre mode de communication jusqu'à présent, il va falloir qu'on prenne des pincettes avec ça maintenant et de préparer l'Œdipe. Donc vous voyez, il y a toute une série d'implications sur lesquelles je ne reviendrai pas là parce que c'est pas, on ne va pas détailler tout ça. Mais pour en arriver à cette fameuse castration anale qui, à mon avis, aujourd'hui, revêt une très grande importance. La castration anale, et je vais m'en tenir là, hein, vous inquiétez pas. Hein, bon, la castration anale qui a été donc inventée par Françoise Dolto pour marquer à quel point la possibilité de devenir propre pour un enfant en maîtrisant ses sphincters musculaires volontaires, urétro et anaux. Vous imaginez d'ailleurs si on n'était pas passé par là, hein, la salle là, ce que ça serait. Donc c'est très important pour la vie en société, pour la vie en groupe. Mais en même temps, ce qu'elle indique, c'est que l'interdit que l'enfant va en intérioriser comme un miel essentiel pour sa vie à venir, c'est l'interdit du meurtre. Alors les gens se posent la question de savoir, mais quel est le rapport entre cette castration anale, la propreté, et l'interdit du meurtre? Et c'est là qu'il me semble qu'on peut introduire quelque chose que j'essaie de reprendre à Dolto pour l'utiliser dans ma pratique de tous les jours. C'est ce que je proposerais d'appeler la castration musculaire. C'est-à-dire le fait de considérer que le sphincter vésical et anal est une toute petite partie, un tout petit sous-continent de l'ensemble de la potentialité musculaire d'un enfant. Et que cette potentialité musculaire est au service de sa toute-puissance infantile. D'ailleurs, un enfant qui se développe dans la première année de sa vie attrape les objets avec sa main et puis apprend à lâcher les objets qu'il ne veut pas. Et puis dès qu'il se met à marcher, il va vers les objets qu'il veut attraper et il ne va pas vers les endroits où il ne veut pas aller. Donc vous voyez bien, l'effecteur musculaire, Freud l'avait dit d'ailleurs déjà à propos de la pulsion de mort, c'est quelque chose qui est très important pour donner son libre cours à, on pourrait dire avec Mélanie Klein, l'apogée de la toute-puissance infantile. Et que c'est parce que cet enfant s'est développé dans un univers dans lequel cette toute-puissance infantile est en permanence bordée par la limitation progressive que les castrations symbologènes successives lui apportent dans l'interaction, que d'un seul coup, la capacité qu'il a avec son muscle, au bout de sa main, de prendre ce qu'il veut est limité par le fait qu'il l'intériorise progressivement, le fait que s'il le fait, ça pourrait être au risque de tuer l'autre. Alors ça paraît un peu dramatique, mais vous avez la situation très simple du petit garçon qui a 18 mois et qui veut attraper la pelle et le seau. Je me méfie parce qu'on pourrait faire la selle et le pot, alors évidemment c'est le stade anal. La pelle et le seau de sa grande sœur qui est dans le bac à sable et qui veut absolument l'attraper. Et s'il l'attrape vraiment, eh ben, elle va tomber sur le bord en ciment du bac à sable et se fendre le crâne. Donc, vous voyez bien que s'il va jusqu'au bout de son désir avec l'effecteur musculaire, c'est au détriment éventuel de l'autre, y compris dans sa partie la plus brutale. Et que c'est parce qu'il va y avoir une sorte de castration symboligène qui porte précisément sur le fait que je vais jusqu'à ce que, éventuellement, du langage surgisse entre les trois personnes qui sont là, c'est-à-dire ma grande sœur, moi, mais aussi sous l'œil attention conjointe de mon parent, que quelque chose va s'établir d'une limitation progressive. Et à ce moment-là, cet enfant, suffisamment en voie de se castrer, ou allant devenant castré, pour parler à la mode d'Oltoïque, eh bien, va intérioriser à ce moment-là, sous la forme de langage qu'il va articuler avec ses représentations de choses, des éléments du tout et langage environnant qui lui permettront de fabriquer les représentations de nature à nourrir l'interaction avec les autres autrement que par la seule satisfaction de son besoin et de son désir quand lui l'a décidé. Et on voit bien que la question de l'altérité, la question du groupe qui est si en déshérence aujourd'hui dans notre monde contemporain, s'enracine dans des choses de cet ordre-là. Alors je pense que vous voyez dans le mouvement qu'on a lancé à plusieurs qui sont présents ici, pas de zéro de conduite, quand on essayait de dire à ces politiques, quand vous prédisez à 3 ans qu'un enfant qui est un peu agressif, il va devenir délinquant à 15 ans, on essayait de les retenir de leur hubris pour rappeler que l'enfant qui est agressif à 3 ans est principalement en train de mettre au point dans l'interaction avec son groupe quelque chose qui serait les limites jusqu'auxquelles il peut aller et qu'il faut à ce moment-là lui indiquer qu'on ne peut pas les dépasser dans une société qui porte ce nom. Et je crois qu'à ce moment-là, le message est bien celui d'essayer de faire passer aux parents et à l'enfant l'idée que on attend bien entendu de lui qu'il se plie d'une façon suffisante à ce que le groupe social attend de lui pour que la vie en société soit possible. Et que dès l'instant où on en déduirait qu'il va devenir délinquant à 15 ans, l'effet de la prophétie autoréalisatrice serait évidemment très important et irait dans le sens inverse de ce que je décris à propos du rappel de l'importance de la castration symbolique dans le développement de l'enfant. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en mémoire et en souvenir de Françoise Dolto, mais aussi pour dire que, en nous, elle est toujours très vivante et je pense que ça doit nous inspirer des attitudes humaines, intersubjectives, dignes de ce nom. Je vous remercie.
Très bien, non mais c'est très important parce que au regard des débats actuels sur la question de la sévérité, de la répression, de l'éducation, etc., et ce que tu disais sur la castration anale fait penser tout à fait à ce que Dolto pouvait écrire dans l'immédiate après-guerre dans Femmes françaises concernant l'éducation à la propreté, hein, où elle indiquait qu'il y avait la nécessité d'un présupposé concernant une certaine maîtrise sphinctérienne, musculaire, pour que cette éducation puisse avoir lieu, mais elle ne préconisait pas qu'il n'y ait pas d'éducation à la propreté. C'est-à-dire qu'effectivement, les notions même de castration symboligène impliquent une perte de jouissance, et donc quelque chose qui a aussi à voir avec une dimension qui est pas sans rapport avec la question de l'éducation, au sens étymologique du terme, au sens de éduquer, hein, de conduire, voilà. Donc c'était très important que tu rappelles. Juste un mot, je vous faire confidence d'une anecdote, parce que tu parlais de tes cours en première année de médecine avec le mot castration. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, j'avais fait un cours en première année de médecine, une conférence à Lyon sur la psychanalyse. Et quand j'ai prononcé le mot phallus, il y avait une salle à peu près grande comme ça, j'ai cru que la salle allait s'effondrer. Ça a déclenché une émeute. Oui, voilà. Ça a été absolument dément. Les seuls qui n'ont pas bougé, c'était les élèves de l'école de santé des armées qui avaient un uniforme et ceux-là étaient restés assis, immobiles. Voilà, je dis ça à titre d'anecdote à propos de la question de l'image du corps, vous voyez. Et le jour où on nous demande maintenant finalement de les mettre tous en uniforme, c'est au fond ça, hein, la demande implicite.